Chapitre 22e. Réveil, généreuse hospitalité, voyage de recherche, notre départ. Combien de temps dura mon sommeil, je l'ignore. Toujours est-il que le soleil avait déjà fourni la moitié de sa course lorsque je me réveillais, ou pour être plus exact, lorsque l'on me réveilla le lendemain. Je fus un moment avant de pouvoir me rendre compte, après avoir ouvert les yeux, de ma position présente. La première chose qui frappa mes regards fut un groupe d'Arabes qui nous entourait. Je ne savais bien au juste si je ne rêvais pas encore. Le plus âgé d'entre eux, beau vieillard à barbe blanche, me demanda aussitôt si nous ne désirions pas réparer nos forces par un bon repas. Inutile de rapporter quelle fut ma réponse. Combien je bénis alors mes précédents voyages à la côte d'Afrique, qui m'avaient mis à même de comprendre quelques mots usuels de la langue arabe et de pouvoir m'expliquer assez intelligiblement. Je ne puis dire combien le peu de nourriture que j'avais prise la veille et le long et paisible sommeil que j'avais ensuite goûté avaient rétabli mes forces. Je ne me ressentais presque plus des privations et des fatigues que j'avais subies pendant les 4 jours d'angoisse passés dans le canot. Le même heureux changement s'était également opéré chez mes compagnons. Le capitaine et le jeune Fleury, dont l'état, la veille encore, me causait de sérieuses inquiétudes, se levèrent aussitôt d'eux-mêmes, sans avoir besoin de notre aide, et s'empressèrent de suivre le vieil arabe qui nous conduisit à son habitation. Nous trouvâmes en y arrivant un repas splendide, un cabri fricassé, le mets favori des Arabes, des patates et du riz en abondance, des fruits à profusion. Je croyais assister à la réalisation du conte le plus invraisemblable des 1001 nuits. Les Arabes qui nous entouraient et assistaient à notre repas ne purent s'empêcher, malgré leur gravité, de témoigner par leurs exclamations, à plusieurs reprises, l'étonnement que leur inspirait notre voracité. En moins d'un quart d'heure, nous en eûmes fini avec tout ce que l'on nous avait servi. Je ne puis comprendre comment nous pûmes résister à un tel excès. Il est probable que sans notre légère collation de la veille, qui nous avait déjà préparé, nous eussions succombé à cette espèce d'orgie. Une chose que l'on ne peut trop louer chez l'arabe, c'est sa discrétion et sa dignité. Pendant tout le temps que dura notre pantagruélique dîner, pas un d'entre eux ne nous adressa une seule question. Ce ne fut que quand nous eûmes bien satisfait notre appétit qu'ils nous interrogèrent, et encore régnait-il dans leur demande une discrétion profonde. On voyait qu'ils ne s'inquiétaient de notre position que pour pouvoir connaître nos besoins et non pas pour satisfaire une vaine curiosité. Notre récit terminé, et ce ne fut pas long, le vieil arabe, sans prononcer une parole, s'éloigna et revint bientôt avec des pagnes dont il nous fit cadeau. Une heure plus tard, nous étions tous installés dans des habitations différentes où nous recevions la plus large hospitalité. Les journées du 17 et du 18 se passèrent pour nous dans un délicieux repos. Le 19 au matin, nous nous retrouvâmes aussi forts et aussi alertes que possible. Réunis tous les 5 en conseil, nous discutâmes notre plan de conduite. Notre décision fut bientôt prise et prise à l'unanimité. Nous décidâmes que le lendemain, sans plus tarder, nous entreprendrions un voyage d'exploration pour rechercher nos camarades. Maître Fleury et moi, plus robustes que nos compagnons, nous nous proposâmes et nous fûmes immédiatement acceptés pour tenter l'aventure. Nous employâmes le reste de la journée à construire un gouvernail pour remplacer le nôtre, que le capitaine, on doit s'en souvenir, avait jeté à la mer dans un accès de délire. Le lendemain, nos hôtes, à qui nous avions fait part de notre projet, nous fournirent des voiles, des vivres et un mât. Un d'entre eux même voulut bien s'embarquer avec nous pour nous servir de pilote. Nous mîmes à la mer vers les 5 heures du matin. Telle est l'insouciance du matelot, que la vue de ce canot où j'avais tant souffert ne me causa aucune impression. J'avais presque oublié, pendant les 2 jours de tranquillité que je venais de goûter, notre terrible naufrage. Je me déterminai d'abord à explorer la partie septentrionale de l'île. C'était là où les courants avaient dû, si toutefois mes malheureux amis restés sur la Doris étaient parvenus à construire leur radeau, conduire ceux dont l'image ne me quittait plus et me poursuivait sans cesse. Hélas, nos recherches furent complètement infructueuses. Nous revenions 2 jours après, le 21, sans avoir rien rencontré ni remarqué qui fût de nature à nous donner le moindre espoir. « Mon Dieu !» nous dit le capitaine. « J'ai bien peur qu'ils n'aient été tous égorgés par les nègres restés à bord de la Doris. »« Mais capitaine, ces nègres n'étaient plus bien nombreux. » »« Ils étaient encore de beaucoup supérieurs en nombre à nos amis, » et comme ces derniers n'avaient pas d'armes pour se défendre, il y a 100 à parier contre un qu'ils ont tous succombé. Qu'importe, notre devoir n'en est pas moins de tenter tout ce qu'il est humainement possible de faire. Mon Dieu, messieurs, ne croyez pas que je recule devant le danger ou la fatigue. La preuve, c'est que je vais m'embarquer à mon tour avec Ducasse et Fleury. En effet, une heure plus tard, M. Liard, Ducasse et le jeune Fleury mettaient à la voile. Le lendemain soir, ils étaient de retour, après un voyage tout aussi infructueux que l'avait été le nôtre. À la suite de ce second échec, nous tînmes un nouveau conseil. Fallait-il, nous partageant en deux divisions, dont l'une prendrait par le nord et l'autre par le sud, parcourir le littoral entier de l'île en nous donnant rendez-vous à la ville de Zanzibar? Ou bien encore, ne convenait-il pas mieux de traverser l'île du Levant au couchant et de nous rendre tout simplement auprès du gouverneur Yakout pour le prier de nous confier un bateau et de visiter ensuite le rivage de la Grande Terre? Ce plan, sans nos malheureux antécédents, eût été certes le plus logique, mais Yakout, dont nous avions retenu prisonniers les douaniers, mitraillé les soldats et coulé les dos, aurait-il assez de magnanimité et de grandeur d'âme pour oublier et pardonner, en présence de notre malheur, ses griefs contre nous? Cela nous paraissait douteux. N'importe, le devoir doit parler plus haut que la crainte. Nous adoptons ce dangereux projet. Et puis, qui sait, peut-être Yakout ne nous reconnaîtra-t-il pas. Voilà donc, malgré les objections du capitaine, une résolution bien arrêtée. Nous nous mettrons en route le lendemain. Dès que les Arabes eurent terminé leur prière du soir, nous nous rendîmes chez le beau vieillard à la barbe blanche dont j'ai déjà parlé et qui semblait exercer une grande autorité sur les autres habitants de la bourgade. « Mes amis, nous dit-il après nous avoir écoutés avec la plus extrême attention, Dieu vous récompense de la bonne intention que vous avez eue. L'on m'apprend à l'instant que des infidèles, je voulais dire des étrangers naufragés, viennent de débarquer vers ce côté de l'île. » Et le vieillard, en parlant ainsi, nous désignait le nord-ouest. « Je ne doute nullement que ces hommes ne soient les compagnons que vous cherchez. Si vous voulez partir demain matin, au lever du soleil, pour aller les rejoindre, je vous donnerai un guide. Je dois cependant vous avertir que ce voyage par terre vous présentera quelques dangers. Vous aurez à traverser une forêt peuplée de bêtes féroces. Mais qu'importe, notre destinée n'est-elle pas écrite? Nous est-il possible de l'éviter? On concevra sans peine les véritables transports de joie que nous causa cette heureuse nouvelle. Nous n'étions pas fâchés non plus d'éviter de nous retrouver avec Yakout. Quant à cette forêt, refuge des tigres et des serpents, inutile de dire que cela ne nous préoccupait nullement. Il fut convenu à l'unanimité que le lendemain nous nous mettrions en route un peu avant le lever du soleil. Le reste de la journée se passa pour nous en visite et en adieu. Nous fûmes voir tous les Arabes de la bourgade qui nous avaient accueillis dans notre malheur avec tant de générosité et qui semblèrent ne se séparer de nous qu'à regret. Ce devoir accompli, nous offrîmes au vieillard à la barbe blanche, dont le nom était quelque chose comme Mokrani, le canot de la Doris. Quoique ce présent dût lui être fort agréable et lui fût d'une grande utilité, il ne nous en remercia que par un simple signe de tête. Enfin, après une nuit que l'espérance de revoir bientôt nos compagnons nous fit passer sans sommeil, nous nous mîmes en route. Mokrani nous accompagna jusqu'à près d'une demi-lieue de la bourgade, puis au moment de se séparer de nous, s'adressant au guide qu'il nous avait donné, « Embaruk, lui dit-il en lui remettant un collier de corail, voici ton talisman. Tu n'auras qu'à le montrer si on t'arrête, et il ne te sera rien fait. » Quant à moi, j'avouerai que ma douleur de me séparer de mes hôtes n'était pas tellement profonde et ne m'absorbait pas à un tel point qu'elle m'empêcha de remarquer que nous nous mettions en route sans provisions et sans vivres. Seulement, les Arabes s'étaient montrés si généreux à notre égard que j'hésitais longtemps avant d'oser aborder ce sujet avec Mokrani. Cependant, une fois qu'il nous eut donné sa bénédiction, au moment où il allait se séparer à tout jamais de nous, je l'arrêtai par son pagne. « Généreux hôte, lui dis-je, pardonne à mon indiscrétion, mais j'étais si rudement éprouvé et j'ai tellement souffert que tu comprendras mes craintes. Parle, mon fils, je t'écoute. Tu nous as comblés de tes bienfaits, mais tu parais oublier que nous allons entreprendre un voyage de 3 jours, car tu ne nous donnes pas de vivres. » Mokrani sourit doucement et élevant lentement le doigt vers le ciel. « Je pense sans cesse à Dieu, me dit-il, fais comme moi et tes inquiétudes cesseront. Quel est l'être animé dans toute la nature qui succombe à la faim? Il n'y en a pas. Qui s'intéresse au sort des insectes et des oiseaux? Personne. Cependant, ils vivent. Pourquoi donc celui qui nourrit le tigre et l'abeille t'abandonnerait-il, toi qui es un homme? Cela n'est pas probable. Adieu. » L'arabe, après avoir plagié ainsi sans s'en douter, certes, les vers de Racine, « Au petit des oiseaux il donne la pâture et sa bonté, etc. » nous bénit une dernière fois, et nous adressant un dernier adieu, il reprit le chemin de sa bourgade.